All right, here we go.
Morée.
Here we go.
Live.
Live. Avec Dominique Morée, Dan Gravel.
Radio X. Vous arrivez de Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Casimir, de Pont-Rouge, de Donnacona, vous êtes jamé sur Charest, c'est normal. Deux accrochages Charest, direction S, une juste dans la courbe, là, quand on est à la hauteur du parc industriel et un autre à l'approche du chemin du lac, à la hauteur du boulevard Amel. C'est très compliqué dans ce secteur-là. Très compliqué également au centre-ville de Québec, partout, là. Je veux dire, tous les chemins qui s'en vont d'est en ouest sont rouges, sont en couleur. C'est le cas, entre autres, pour la Côte-d'Abraham, pour Dufresne-Montmorency, pour Laurentienne. Laurentienne également, ça ne dérougit pas, là, encore un accrochage à la hauteur de Capitale. Capitale, c'est complètement jamais. Je ne vous ai pas parlé des ponts, parce que les ponts, il n'y a rien à dire, mis à part. C'est le dawa total, mais vous êtes pogné là. Là, vous n'avez pas le choix. C'est la seule alternative pour vous rendre sur la Rive-Nord ce matin. Donc, soyez patients. C'est l'événement Ma Beauté chez Jean Coutu cette semaine. Obtenez 20 fois les points, moins des 75 d'achat de cosmétiques. Détails au jeancoutu.com. Doom.
Mesdames, messieurs, il vient de sortir un livre. Puis c'est une expression qu'il utilise. Mais à force de l'utiliser, l'expression, ça devient une expression consacrée. La Société Chalet. Le livre vient de sortir. C'est tout chaud, c'est brûlant. JBG!
This is Radio X. Radio X.
Jérôme Blanchet Gravel.
Jérôme, comment ça va?
Maurice, ça va bien, toi?
Oui, on est dans le chalet, on est bien, on est à l'abri. À l'abri de trompes. Ou pas tant que ça, dans le fond. Pas assez à l'abri, hein, je te dirais. Dans
non,
le chalet.
Jamais assez, non.
Qu'est-ce que. Ben d'abord, définis la Société Chalet. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ensuite, on parle du livre.
Oui, c'est. Écoute, je me suis amusé à définir ce concept-là, qui au début, effectivement, était une sorte de trolling là, sociologique, mais qui s'est imposé sur les réseaux sociaux. Graduellement, les gens adorent le concept de Société Chalet. Ils trouvent que. Ça dit quelque chose de notre société. Donc, il y a deux aspects, comme je le dis dans l'avant-propos, principalement. Donc, il y a un aspect psychologique et idéologique. La Société Chalet, c'est la zone de confort de laquelle on refuse de sortir depuis maintenant plusieurs années au Québec. Quand c'est sans cabaner face à l'adversité du monde, c'est le refus, finalement, de l'adversité et de la réalité elle-même. Hein. Donc, c'est le réflexe, c'est une fuite. La Société Chalet, c'est le grand évitement. On évite de se mettre, finalement, dans le jeu de l'action. Hein. Puis Donald Trump, c'est le gars qui arrive avec un bat de baseball et qui détruit la Société Chalet en bois rond devant nous. Hein. C'est ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'on lui pardonne pas au Québec, à Donald Trump, de nous avoir sortis de notre zone de confort. Donc, le premier aspect est idéologique et psychologique. Le deuxième est vraiment géographique, parce qu'un chalet, c'est quoi? On le sait, c'est une résidence qui est en périphérie, qui est en campagne, qui est loin, finalement, des centres urbains, de où c'est censé se passer, en particulier la vie politique. Donc, à l'échelle des Amériques, le Québec et le Canada sont un peu ce qu'est l'Abitibi à l'échelle du Québec. Là. C'est-à-dire, c'est un territoire un peu perdu dans le Nord. Et c'est ce côté insulaire, cette impression finalement d'être à l'abri, encore une fois, ben, des intempéries du continent, des intempéries politiques, économiques, ce sentiment-là d'être isolé, hein, finalement. Et on ne se sent pas concerné par les affaires du continent. Et quand Donald Trump nous rappelle... par exemple, qu'on a des responsabilités, notamment en matière de défense, eh bien, on est très fâché. C'est encore une fois, on refuse de prendre nos responsabilités. Donc, il y a deux aspects, là, idéologiques et géographiques principalement.
À la base, est-ce que l'unilinguisme vient nourrir ça beaucoup? L'unilinguisme qui nous limite, donc, surtout auprès des gens d'une certaine génération qui sont plus téléphages que les jeunes, on aura compris... Les RDI et les LCN de ce monde sont davantage consommés par les gens d'une certaine génération, qui sont comme prisonniers linguistiques. On a beau leur dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on pense sur telle chaîne américaine, sur tel compte YouTube américain ou peu importe. » Tu sais, de diversifier la consommation média, on est prisonnier de ça. Moi, je pense que ça commence là. Ta vision des choses là-dessus, c'est quoi?
Bien, c'est un argument qu'on entend souvent, auquel j'adhère moins, parce que le français est une langue internationale. Donc, honnêtement, c'est au Québec, si on avait un peu d'auteur sur les choses, on serait capable de lire des médias français. Toi-même, Dominique, tu fais ça régulièrement. Oui. T'écoutes Berkov dans ton char, etc.
Puis valeur actuelle, tu peux varier aussi selon les modulations idéologiques. Le Point, mais tu peux lire Le Marianne également. Aussi. C'est ça, exact. Donc,
la presse en français, elle est très vaste. Moi-même, j'écris encore régulièrement en France.
Oui.
Etc. Donc, c'est pas une excuse, mais ça, effectivement, ça a contribué à l'échelle du continent même. Il y a effectivement ce phénomène d'isolement linguistique. Mais c'est pas une excuse. Écoute, Le Figaro, tu peux lire ça le matin à Marrakech. T'sais, il devrait y avoir, dans un monde idéal, une édition québécoise quasiment du Figaro là, qu'on pourrait acheter au dépanneur. Là, maintenant, on se retrouve avec les journaux qu'on connaît. Écoutez, c'est un désert journalistique incroyable. Actuellement, le Québec, heureusement, il y a des oasis qui poussent au travers de ce désert-là. Radio-X est encore une force de résistance au travers de tout ça. Mais donc, l'isolement linguistique, non, est tant qu'à moi, pas suffisant pour justifier cette mise en retrait constamment du continent.
Mais est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Tu sais, c'est la poule ou l'œuf. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le système d'éducation qui nous rend comme ça? Qu'est-ce qui nous rend comme ça? C'est-à-dire isolés culturellement. Et jusqu'à un point tel où on en verse dans la bêtise. Souviens-toi de la pandémie. Il y a un virus... Oui. Respecte les flèches à l'épicerie, etc. Donc, on est dans l'ultime soumission. Là. On est dans la soumission même quand les règlements sont bêtes. On adore les règlements parce qu'ils régimentent nos vies, ils balisent nos comportements. Mais qu'est-ce qui nous rend comme ça, comme société?
Bien, d'abord, c'est ça, c'est que ce sentiment d'insouciance est possible grâce aux États-Unis. C'est le grand paradoxe. C'est-à-dire, autant on déteste les États-Unis, surtout de Trump, mais autant on leur doit, pas dire qu'on leur doit tout, mais on leur doit en fait cette société des loisirs, c'est-à-dire on a fait du ski de fond pendant 30 ans, pendant que les Américains assuraient la sécurité du continent. C'est ça qui s'est passé au Québec. Ça, la société chalet. Puis moi, j'inclus le Canada là-dedans. Hein, c'est un peu une hérésie, là, c'est-à-dire je pense que le Québec et le Canada se ressemblent plus qu'on pensait, finalement. Oui, le Québec est une société distincte, mais il partage avec le Canada, je pense, cette forme de géographie mentale, là. Donc, celle des peuples éloignés, finalement, des carrefours où l'histoire se fait. Permets-moi, Dominique, de citer un extrait du livre, parce qu'on est vraiment...
Oui.
Donc, cette impression de sécurité repose en grande partie sur la puissance américaine. Le Québec et le Canada peuvent se permettre de croire à leur innocence parce qu'ils vivent dans l'ombre protectrice des États-Unis d'Amérique, tout en condamnant régulièrement la brutalité de l'aigle dont dépend leur tranquillité. Ils habitent son environnement immédiat, profitent de sa force et se donnent néanmoins le beau rôle, celui du voisin raisonnable, pacifique et moralement supérieur.
C'est très bien dit. Est-ce qu'on est des profiteurs? Question brutale.
Un peu, oui.
Profiteurs de l'Alberta aussi. Rajoutons le pétrole sale, mais donne-moi le chèque pour payer mes garderies. C'est ça, pareil. Hein? On aime avoir les mains propres, on aime avoir maison nette. On va pas trop se faire déranger, mais protège-moi puis donne-moi du pétrole. Et donne-moi du cash aussi. Mais je veux pas de tuyaux sur le territoire. Tu comprends? On veut pas, et on veut pas se développer également. Tu peux rentrer ça là-dedans aussi, Jérôme. On veut pas se développer, mais parce qu'ici...
On veut pas salir les mains. On laisse les autres se salir les mains. Et on n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire, le Canada est devenu une figure, un personnage narcissique. Comme j'écrivais dans un texte récemment à Libre Média, le Canada est devenu l'adolescent attardé du continent. Parce qu'on est parfait. Oh, écoute, on n'a rien à se reprocher. On ne se trouve pas un seul défaut. Évidemment, tout est la faute des Américains. On veut être souverain, mais on veut être traité comme les Américains. Ça, c'est une autre contradiction. Alors qu'il y a un prix à la souveraineté, les Cubains en savent quelque chose. Et c'est ça, il n'y a rien qu'on a mal fait dans les 10-15 dernières années. Écoutez, moi, je trouve que les Américains ont été très patients. Il y avait déjà le Mexique à la frontière sud, un pays, vous savez, que j'aime et qui est assez problématique, notamment au niveau migratoire. Et là est arrivé Justin Trudeau, 10 ans, une espèce de clown, une espèce de prince boréal, complètement clownesque, qui transforme le Canada lui-même en espèce de passoire migratoire. Moi, je connais des Mexicains qui m'ont dit « Maintenant, je passe par le Canada pour descendre à pied aux États-Unis. » Donc, les États-Unis avaient déjà à gérer la pression de l'Amérique latine qui poussait au sud. Se sont retrouvés avec un pays pas sérieux pantoute, le Canada, cette société chalet où, encore une fois, les gens font du ski de fond pendant que la Chine avance ses pions. C'est-à-dire, écoutez, il y a des choses qui se passent, là.
Oh, oui, la Chine et le Japon, ce matin, d'ailleurs, des bateaux qui dirigent vers le Japon. Mais je te pose la question, dans la globosphère, regardons le globe, serait-ce le seul endroit où la liberté est perçue comme étant toxique?
En Occident, oui. En Occident, c'est rare.
Ben, c'est une société malade.
Ben oui, ce discours de dénigrement de la liberté qu'on a vu durant la pandémie... Est-ce qu'il serait impossible, déjà, dans le monde hispanophone, la libertad, tout ça, ce serait épouvantable. Ce serait pas acceptable. Là. On pourrait pas avoir ce discours-là sur la liberté. C'est-à-dire cette espèce d'amour, cette espèce de prison, finalement, dorée qu'on s'est construite au Canada.
Puis on fait un débat politique, d'ailleurs, en campagne. Oui, mais est-ce qu'on devrait vraiment débureaucratiser? Est-ce qu'on devrait enlever des règlements? Je veux dire, ça va de soi. On fait des débats là-dessus. Oui, mais des règlements, il y en a, mais il ne faut pas trop en enlever. C'est comme si c'était notre raison d'être. C'est comme si la réglementation était la raison d'être des Québécois en 2026. C'est complètement fou.
Ah oui, bien écoute, l'obsession de la sécurité à travers les règles, c'est le fil conducteur du livre. Donc, deux mots sur la démarche. Écoute, ça réunit 6 ans d'écrits politiques. Ça part de mai 2020, ça remonte jusqu'à mai 2026. Et le fil conducteur, c'est ça. C'est l'obsession de la sécurité.
Et le cœur étant la pandémie, évidemment.
Le point de départ. Mais comme je le dis, la pandémie, ça n'a pas transformé notre vision du monde. Ça l'a radicalisé notre vision du monde. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose avant. Et là, on s'est retrouvé avec un phénomène... un tremplin, finalement, pour accélérer cette dépolitisation aussi. C'est-à-dire le Québec est un des endroits actuellement les plus dépolitisés dans le monde. C'est ça aussi, la société chalet, ce désengagement de la sphère politique, de la sphère culturelle. Donc, ce Québec qui se croit encore, là, comment dire, là, au sommet là, en matière d'éducation, de solidarité...
On vit dans une illusion.
Oui. Le mythe du Québec... de la pureté aussi institutionnelle. Il n'y a pas de corruption au Québec. Ça, on paye des lampadaires 1 million, mais il n'y a pas de corruption. Écoutez, il y a des histoires. Ils ont installé un toboggan dans un parc. Ça avait coûté 1,2 million, rappelez-vous. Écoutez, c'est... Donc, l'espèce de pureté immaculée, ça, oui, du Québec, du Canada, face aux États-Unis, qui sont, eux, évidemment, impurs. Nous sommes purs, ils sont impurs. Nous sommes bons, ils sont méchants. Donc aussi, bon, ça, c'est un mythe qui a mal vieilli. Oui. Donc, mais la question se pose, Dominique, c'est sérieux, c'est celle du... C'est-à-dire le caractère démocratique du Canada.
Oui.
Écoute, c'est pas une démocratie aussi... non, aussi parfaite qu'on se l'est fait
vu,
croire.
Carney nomme des sénateurs, il nomme des ambassadeurs, il s'en va en partiel. Il est allé réussir. Rappelons que c'est un minoritaire, a réussi à se tripoter un gouvernement majoritaire, là, quand même. C'est une première dans l'histoire canadienne, faut-il le dire?
Oui, puis la campagne électorale provinciale quand même montre qu'on est devant une fabrique de l'opinion. Là, c'est rendu qu'il faut parler comme les sociologues de gauche. Vous connaissez peut-être Pierre Bourdieu qui a publié un livre célèbre en sciences politiques. L'opinion publique n'existe pas. Et force est de constater qu'au Québec, actuellement, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant des gens qui, de manière... dont le niveau de malhonnêteté décomplexé. Moi, j'ai peine à croire, honnêtement, qu'on nous refait ce coup-là. C'est-à-dire, je me disais, Mme Fréchette doit avoir plus d'estime d'elle-même. Je veux dire, il faut non,
pas
avoir
déjà...
Mais c'est
la poids du gain, l'obsession. Je veux dire, c'est l'obsession du pouvoir. À un moment donné, ça rend dingue. Hein? Les gens qui ont le pouvoir ne veulent pas le laisser. Quitte à aller manger une poutine au chez Tiwi, faire croire au monde, « Hey, regarde, je suis vrai, là, je suis comme vous autres, je vais manger une poutine, moi aussi, là. » C'est comme c'est arrivé hier, en passant. Incroyable, mais vrai.
Oui, oui, oui. Non, c'est gros. Puis, ben écoutez... dans d'autres pays, je vous le dis, ce que Carney a fait... bon, puis là, on est devant aussi peut-être des négociations qui ont été sabotées à la dernière minute. On peut penser que les négociations ont été sabotées la dernière minute à Washington par les Canadiens pour ces raisons politiques, d'unité interne. Et nous, au Québec, on, encore là, dans cette espèce de naïveté, hein, on se croit bon. Hein, c'est la société Chalet, c'est la société un peu hobbit. Et là, on les voit, les titres de journaux, c'est toujours un peu les hobbits à l'assaut du Mordor.
Il a dit pénis il y a 8 ans. Punissez-le, alors qu'il y a une crise sociale, il y a une crise sanitaire, pas dans le sens de pandémie, mais bien entendu, un système de santé qui est complètement en déroute. Je veux rappeler aux gens, donc, ton livre vient de sortir. À quel endroit on peut l'acheter? En numérique
absolument,
et en...
Surtout Amazon, principalement, mais il va être distribué dans les prochains jours à Québec, à la librairie de la Liberté, que vous connaissez à Montréal, à l'atelier librairie Le Livre Voyageur. Il y a d'autres points de vente là, qui s'en viennent avec qui on est en train de conclure des ententes. Donc, lisez ça, c'est très punché. C'est un livre qui est accessible. J'ai fait des essais un peu plus théoriques là, dans le passé. Ça, ça se lit facilement. Évidemment, ce sont de courtes parties parce que ce sont des chroniques publiées sur 6 ans. Et oui, apparemment, j'ai déjà des commentaires. On me dit que c'est très punché. Donc, puis il y a un aspect humoristique dans le sens où, écoute, il y a des faits qu'on relève sur le Québec qui sont drôles. C'est-à-dire 2 ans. D'abord, cet été, tu as vu, Dominique, durant le coma collectif estival, 2 grands axes d'actualité, la rage du raton et la diarrhée explosive. Donc.
Alors, il faut suivre. Puis là, je vais inviter, puis on se laisse là-dessus, mais je vais inviter les gens à suivre tes médias sociaux. Là. C'est non-stop. Ça n'arrête pas.
On collectionne.
Et ce n'est pas créé, ce n'est pas le Crow. Pour les gens de ma génération, le magazine Crow ou le Safari par la suite, ce n'est pas une invention. Comme dirait Pete Hegseth, this is real. Merci beaucoup, JBG, merci, l'unique, merci, le seul, Marie, le vrai. Bon. Salut, bye. Jérôme Blanchet-Gravel, son livre, très punch, achetez ça. Et c'est sur Amazon, entre autres. Puis Amazon, Kindle, tu l'as, c'est automatique. Que se passe-t-il, mon cher?
Ben, il se passe rien.
OK.
Je voulais, il pleut.
Je voulais que tu me racontes un peu la
vie.
C'est nuageux.
Les Blue Jays ont gagné hier.
Ouais. Gang pair.
Guerrero,
c'est comme une marguerite. Là.
Guerrero frappe les circuits quand
il gagne 11-0. Il va être tranquille pendant 12 games.
C'est ça.
Ray, es-tu là?
Il devrait être à peine arrivé.
OK. Il devrait arriver.
Parfait. Si il n'est pas arrivé, on va faire...
On va faire la radio, d'après moi.
Oui, on va parler à Simon.
OK. Je t'ai envoyé un extrait, Nick. Peut-être que ça vient juste d'arriver dans le cas de... D'autres questions niaiseuses de journalisme rapporte-t-on du côté du M? Faire changement. Hein? J'ai hâte d'entendre ça.
Simon Coutu au retour.
Simon Coutu au retour?
Oui.
Puis après, c'est ta matante?
Après ça, c'est Ray.
OK, parfait. Merci. Au revoir.
Morin. Restez là. Live. On revient dans pas long. Solide. Radio X.